la communication suivante, qui est celle du professeur Frédéric Martens de Villemars, l'Université de Valence, Espagne, qui nous parlera de l'exclusion des femmes d'une communauté de pêcheurs espagnols. Et son travail, ses recherches, une partie en tout cas, est publiée dans les cahiers de genre, le numéro dont nous avions parlé tout à l'heure. C'est à vous.
Eh bien, je vous remercie infiniment avant tout de m'avoir invité à cette journée d'études. Et en plus, je partage le plaisir de faire connaissance avec une exoise, puisque j'ai fait il y a assez longtemps un DEA en droit communautaire à l'Université d'Aix-Marseille sous la direction du professeur Louis Duhoui. Et c'est justement à Aix-en-Provence que j'ai découvert toutes les questions juridiques européennes, communautaires, liées à la discrimination basée justement sur le genre. Et c'est donc c'est à cause d'Aix-en-Provence que depuis lors je m'intéresse aux questions de l'égalité des genres dans la perspective juridique comparée basée fondamentalement sur le droit espagnol, puisque je suis professeur et docteur à l'Université de Valencia. Et le hasard veut que justement à Valence, Valencia, troisième ville d'Espagne après Madrid et Barcelone, nous avons une zone appelée Albufeira. Et l'Albufeira, et c'est un peu l'équivalent de la Camargue française. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3000 hectares de réserves naturelles, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait 30 000 hectares. Et au sein de cette réserve naturelle, il y a une île appelée El Palmar. C'est un village, il y a plus ou moins un millier d'habitants, et fondamentalement, c'est un village de pêcheurs. Et cette île d'El Palmar a fait parler d'elle il y a déjà ça quelques années, suite à des revendications et même des demandes en justice de la part de 5 femmes, filles de pêcheurs, qui revendiquaient leur droit de pouvoir exercer la pêche au même titre que les hommes habitant ce village. Cette communauté de pêcheurs est une association, parce qu'il y a une communauté de pêcheurs, est une association de droit privé qui existe depuis 8 siècles, concrètement 1238, et c'est une association qui jouit actuellement d'une concession administrative de la ville de Valence, alors qu'elle est dénuée de statut. Elle n'a pas de codification d'us et coutumes. Elle a tout au plus une compilation de procès-verbaux, de réunions des divers organes de cette communauté de pêcheurs. Alors, cette communauté, elle existe toujours, même s'il a dû souffrir en vertu du droit espagnol et du droit même international. Elle a dû souffrir diverses réformes, puisqu'il s'agit d'une vieille institution coutumière et qui est fondamentalement basé sur l'inégalité. C'est une règle coutumière, puisqu'elle exclut jusqu'aux années 2000, de manière très très claire, les femmes, puisqu'elles ne pouvaient faire partie de cette communauté en tant que membres de plein droit. Et elles ne pouvaient le faire puisqu'elles étaient simplement femmes. Et alors, au-delà de la question de l'accès ou non de ces femmes à l'association, les critiques et les décisions de justice qui en ont décollé portaient sur l'exclusion des femmes d'un droit spécifique. En valencien, ça s'appelle le droit redoli. Redoli, c'est le droit de pêche. Le droit de pêche dans cette région, dans cette Camargue valencienne. Et concrètement, elle portait sur les critiques portaient sur l'exclusion des femmes à ce droit de pêche dans le cadre de la transmission et dans le cadre de l'héritage. Donc, je suis un petit peu votre exposé. Et le problème, c'est que sans ce droit de pêche, eh bien, il est impossible d'exercer l'activité, supposée activité économique dans cette zone-là. Alors, au sein de la communauté des pêcheurs, chaque membre est propriétaire des résultats de la pêche, selon les règles coutumières établies au fil du temps, mais il ne s'agit pas d'une communauté de biens ou de droits au sens du Code civil espagnol ou du Code civil français. Par ailleurs, cette condition de membre dérive de l'existence de liens personnels. C'est pour ça que les hommes qui vivent là-bas ont quasiment tous le même prénom. Et pour les distinguer, on leur met un diminutif senior, junior, voire même un numéro, 1, 2, 3, jusqu'à 24. La condition de membre de la communauté ne se transmet pas par héritage ou ni inter vivos, entre vivants, hein, c'est le terme juridique. En revanche, le droit de pêche, bien, le droit de pêche se transmet par héritage. Alors, pour pouvoir faire partie de cette communauté de pêcheurs, donc il faut être un homme, il faut dans l'idéal être le fils des pêcheurs, il faut avoir au moins 24 ans ou être marié et avoir un minimum de connaissances dans l'art de la pêche. Et alors il y a deux autres manières d'intégrer la communauté de pêcheurs, soit par le biais de la création d'un nouveau droit de pêche, un nouveau poste fixe dans la zone de la Camargue, ou alors il faut pouvoir hériter de ce droit de pêche. Donc, on y voit déjà là, on perçoit déjà là un obstacle de l'accès aux femmes à l'exploitation piscicole, puisque, comme je l'ai dit il y a quelque peu, la majorité des pêcheurs sont fils de pêcheurs ou petits-fils de pêcheurs, ils portent même voilà, le même prénom, donc au niveau de l'accès des femmes à cette communauté, il y a un sérieux obstacle. En plus, au fil du temps, beaucoup de ces pêcheurs sont cousins, frères, petits-fils, à tel point que quand vous interrogez les habitants du village, ils vous disent qu'en fait, ils sont tous une famille. Somme tots una familia. Donc, tous les membres de la communauté ont droit de participer au tirage au sort des redolins. Redolins, en valencien, c'est le redoli au pluriel, donc à ses droits de pêche. Donc, vous êtes titulaire d'un droit de pêche, mais chaque année, on tire au sort l'endroit où vous pouvez pêcher. Et redoli, le terme redoli vient en fait d'une boule de cire qu'ils mettaient dans une espèce de vasque, hein, comme le tirage au loto, et c'est comme ça qu'on obtenait sa place fixe durant une année dans la zone de la Camargue. Donc, la normative, là, je vous passe les détails de la normative coutumière, mais elle a établi divers mécanismes qui vont garantir de manière exclusive la succession des redolis au sein de la famille. Donc, on reste, ce droit de pêche reste quasiment de manière permanente au sein de la famille. C'est pour ça que tout le monde au village se considère comme une famille entière. Et ce droit de pêche est donc un droit attribuable aux fils et petits-fils, aux membres de la confrérie. Or, l'héritage est la manière la plus fréquente de transmettre le redoli, même si dans certains cas, la cession de celui-ci est possible entre vivants si le cessionnaire réunit les conditions pour intégrer la communauté. En fin de compte, la condition de membre de celle-ci est déterminante dans le cadre de l'exercice de l'activité de pêche et de la transmission du redoli. Alors, nous avons relevé trois règles qui régissent la succession du droit de pêche et qui ont eu une incidence sur l'exclusion des femmes. D'abord, un membre de la communauté d'El Palmar ne peut être titulaire que d'un seul droit de pêche. Ensuite, seul peut intégrer la communauté des pêcheurs et donc accéder au redoli le fils ou petit-fils d'un membre âgé de 24 ans, au moins, ou marié. Et enfin, le droit au redoli prend fin en cas de non-paiement d'une cotisation trimestrielle durant 5 ans ou en raison de l'absence d'activité de pêche. En termes de succession, La question est de savoir si à la mort du titulaire du droit de pêche, il y a plusieurs descendants et auquel d'entre eux reviendra la titularité. Alors, si ceux-ci sont de sexe masculin, le droit de pêche bénéficiera au parent masculin le plus proche en ligne directe. En revanche, en cas de descendance féminine, la fille ou la petite-fille du pêcheur ne pourront utiliser le rédolit que lorsqu'elles seront mariées au fils d'un membre de la communauté qui n'est pas titulaire d'un rédolit, puisque on n'a droit qu'à un seul droit de pêche. Autrement dit, ce sera le mari qui va acquérir ce droit et non l'épouse qui est la fille ou petite-fille du défunt. Et par ailleurs, à la mort du titulaire du rédolit, la veuve du pêcheur a le droit d'exploiter le droit de pêche du défunt par l'intermédiaire d'un autre pêcheur. Généralement, il s'agit d'un parent proche, un neveu. Et par conséquent, le successeur ne recevra ce droit de pêche qu'au décès de la veuve ou si celle-ci renonce à son exploitation. Aussi, la position de la femme en rapport avec ses communautés de pêcheurs est-elle discriminée par rapport à celle des hommes ? C'est évident. Plusieurs études alors ont expliqué cette différenciation de traitement en se basant sur la continuité du droit de pêche au sein de la famille, puisque les obstacles posés à l'encontre des femmes s'inscrivent dans des stratégies de continuité de la famille ou de création d'une nouvelle famille, dans le cas de la fille ou de la petite-fille du membre de la communauté. Stratégie qui repose sur l'idée de doter à chaque famille un moyen pour vivre et donc un contrôle des ressources élémentaires au travers notamment de la filiation. On comprendra dès lors que le fait d'octroyer les mêmes droits aux femmes et aux hommes romprait ces stratégies traditionnelles, même si en fin de compte il s'agit de corriger les inégalités fondées sur le sexe au sein de chacune de ces familles, et non de porter atteinte à la continuité du rédolit au sein de la famille. Alors, le 6 juillet 1997, cinq filles de pêcheurs, membres et ex-membres de la communauté des Pamar, firent la demande de pouvoir intégrer celle-ci. Leur demande, qui fut rejetée par la direction de l'association de la communauté des Pamar, généra le fait qu'elles saisirent le tribunal de première instance de Valence, qui, en 1998, leur reconnut le droit d'accès aux mêmes conditions que les fils des membres de la communauté. La même année, cette communauté expulsa 15 pêcheurs qui avaient témoigné en faveur de ces femmes et recourut à la décision du tribunal auprès de l'audience provinciale, donc c'est une instance supérieure, qui confirma en 1999 la décision du tribunal de première instance et la communauté des pêcheurs introduit un recours en cassation auprès du tribunal suprême de Valence contre la décision prise en appel, et la première salle du tribunal suprême se prononça en 2001 sur le recours en confirmant définitivement la reconnaissance des droits des femmes d'El Palma à pêcher dans le lac de l'Albufera et d'appartenir aussi à la communauté des pêcheurs. Alors, d'un point de vue juridique, plusieurs options ou directions s'offraient au juge d'analyser et trancher le litige qui, d'une manière ou d'une autre, devait aboutir en gain de cause des requérantes. Il était impensable, au vu de la Constitution et des lois espagnoles, ainsi que du droit international, que le juge abandonnât ces femmes à la merci d'une coutume contraire à leur liberté et droits fondamentaux fondés sur l'égalité des sexes. C'est la question de la discrimination à l'accès au travail qui fut retenue par les plaignantes et les magistrats. Le tribunal suprême et puis par la suite le tribunal constitutionnel espagnol condamna l'exclusion des femmes de la communauté à l'appui du droit international au motif qu'elle constituait une discrimination fondée exclusivement sur le sexe dans le cadre professionnel. Le refus de les intégrer constituait clairement un obstacle à ce qu'elles puissent développer une activité professionnelle identique à celle des hommes. Mais les juges donc obligèrent à la communauté à modifier sa normative coutumière en vue de rendre conforme au droit et à la constitution espagnole. C'est la voie donc juridique officielle qui avait été retenue. Mais une autre voie aurait été possible en envisageant non pas le cadre professionnel, mais sinon la question du droit à l'accès à la propriété d'un bien juridique, d'un droit réel, la propriété d'un bien juridique qui est le rédolit. Et l'importance de cette perspective tient tant au fait qu'au droit. Au fait Parce qu'aujourd'hui, la pêche dans la Louvera n'est plus une activité économique rentable. La Louvera vit fondamentalement du tourisme. Et quant au droit, le Redoli s'inscrit dans le cadre de la transmission d'un bien juridique à titre héréditaire. Bien que coutumière, mais juridique, la norme de transmission du bien est la cause véritable de l'exclusion des femmes qui, rappelons-le, sont filles de pêcheurs. Donc la situation de celles-ci relève davantage de la discrimination sexuelle devant les droits liés à la propriété qu'à l'accès du travail. Alors, le tribunal suprême, qui est une juridiction de cassation en Espagne, suivie par le tribunal constitutionnel, remit définitivement en cause les normes coutumières de la communauté d'El Palmar, au motif qu'elles constituaient un obstacle et donc une discrimination sexuelle pour l'accès des femmes à l'activité professionnelle, mais aussi la question de l'accès à la propriété à travers les statuts la communauté, des pêcheurs. Donc, l'argument de ceux qui s'opposaient à l'accès, enfin, de la communauté qui s'opposait à l'accès des femmes tant au Redoli qu'à la communauté en soi, affirmait, oui, mais de toute façon, notre communauté de pêcheurs, c'est une association de droit privé. Donc, on fait ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisque la Constitution espagnole informe que l'égalité des femmes et des hommes régit tout l'ordre juridique espagnol, en ce compris les associations de droit privé. Donc, en fait, on peut situer l'exclusion des femmes de l'Albufera au même titre que l'exclusion des femmes à l'entrée des clubs anglais ou l'exclusion des gens de couleur, des immigrés ou des homosexuels des discothèques espagnoles. Et le juge espagnol donc, a utilisé diverses dispositions de la Constitution espagnole pour condamner les us et coutumes de cette communauté. Je ne vais pas vous mentionner les dispositions de la Constitution espagnole, mais ce qui est intéressant, c'est que les juges ont utilisé des normes de droit international, entre autres de droit international, mais droit international comparé, puisqu'ils se sont référés directement à la jurisprudence nord-américaine, remontant jusqu'aux sentences, aux décisions américaines, se référant à l'Affirmative Action, au Civil Rights Act de 64, une sentence de 1981 et la dernière. La plus récente qu'ils avaient utilisée à cette époque-là, c'était l'affaire United States versus Virginia de 1996. Mais bizarrement, ces mêmes juges ont fait l'exclusion, l'économie de textes internationaux comme la CEDAW de 1979 et une jurisprudence communautaire beaucoup plus récente, justement, dans le domaine du travail. Probablement, le juge espagnol a considéré que c'était tellement évident qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une manière exhaustive à de telles références internationales, puisque de toute manière, rien d'objectif ni de raisonnable pouvait justifier une telle discrimination. Alors, si on s'en tient au droit espagnol, la question du droit privé de l'association, où finalement on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais il en est de même pour le testament. Le testament, c'est un acte juridique privé, en France comme en Espagne, et il est clair que dans ce cadre-là, le droit espagnol a dû se prononcer sur l'extension de cette liberté testamentaire. Jusqu'où pouvons-nous exercer cette liberté dans le testament ? Et donc, la liberté d'établir un testament
applique.
Oui, je vais conclure tout de suite. La liberté d'établir un testament n'implique pas la liberté de discriminer sur le sexe. Et c'est encore évidemment plus évident s'il s'agit d'une norme coutumière qui fixe les conséquences successoral. Et là, le juge a fait économie aussi du droit international, puisque la Constitution espagnole le permettait parfaitement pour éliminer cette discrimination. Donc, pour conclure, il est intéressant de voir que les juges ont raisonné en termes professionnels, mais aussi en termes économiques, par rapport justement à la transmission d'un droit réel et en éliminant les obstacles qui affectent les femmes. Et ils n'ont pas pu pour autant éliminer toutes les discriminations existantes à l'égard des femmes dans d'autres régions d'Espagne. Et je ne ferai que citer le cas, par exemple, de l'accès des femmes au Liceo de Barcelona. C'est un cercle culturel où là, les femmes sont exclues. Elles sont exclues aussi d'un monastère de Zaragoza pour pouvoir admirer une œuvre de Goya. Seuls les hommes peuvent y entrer parce que justement le tableau se trouve dans un endroit réservé aux hommes. Et je terminerai mon exposé avec une phrase, un refrain, ou non plutôt un proverbe valencien qui dit qui te una fille, te una finca, qui te fies, no te res. Ce qui veut dire qui a un fils a une propriété, qui a des filles n'a rien. Merci de votre attention. Merci.